RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et on débutera avec une avancée vers la paix dans l'est de la RDC, mais une avancée à relativiser. Le gouvernement congolais et le groupe armé AFC-M23 parlent pour la première fois dans le même sens. Ils se disent d'accord tous deux pour travailler ensemble à la mise en place d'une trêve. La visite d'Emmanuel Macron à Madagascar, ensuite le président français qui assistera notamment aujourd'hui à un sommet de la Commission de l'Océan Indien sur fond de différents territoriales, vous l'entendrez. Une autre visite en Afrique du Sud, où est attendu aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Paul Biya, qui entretient le flou sur ses intentions pour la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. C'est un message du chef de l'État posté sur les réseaux sociaux qui ravive le débat. Les déboires judiciaires de l'opposant ivoirien Tidjane Thiam, également au sommaire, tout comme la question de la collecte des déchets à Brazzaville et Pointe-Noire au Congo. Une collecte qui sera désormais prise en charge par une société turque. Difficile pour l'heure de dire quelle sera la portée de cette annonce, mais c'est en tout cas une première. Après des semaines de médiation qatarienne, le gouvernement de Kinshasa et l'AFC-M23, qui contrôlent certaines parties de l'est de la RDC, se sont exprimés d'une même voix dans une déclaration conjointe. Les deux parties se disent d'accord pour travailler ensemble à la mise en place d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Prudence donc, patient Ligodi, car finalement, cela ne fait qu'ouvrir la porte à de vraies négociations et un dialogue de fond.
Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve. À ce stade, c'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Comme RFI l'annonçait déjà, ce texte était prêt depuis le 17 avril. Il avait été élaboré 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de la FCM23. Il manque plus que l'approbation formelle de Félix Tshisekedi. C'est désormais chose faite. Le président congolais a donné son feu vert et les documents ont été publiés dans la foulée conjointement par les deux parties. Et la prochaine étape, il s'agit maintenant de respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Parmi ces engagements, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Cette annonce intervient aussi au lendemain d'une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed El Koulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche.
Patient Ligodi, la RDC où la justice a requis hier 20 ans de prison contre Matata Ponyo. Il a occupé la primature entre 2012 et 2016. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ses fonctions de Premier ministre qu'il est accusé d'avoir détourné près de 200 millions de dollars destinés à l'époque à un projet de parc agroalimentaire. Après Mayotte et la Réunion, le président français poursuit sa tournée dans l'océan Indien. Emmanuel Macron est depuis hier à Madagascar où il assistera aujourd'hui au sommet de la Commission de l'océan Indien, organisation régionale qui réunit donc Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, les Comores et la France avec l'île de la Réunion. Une organisation à laquelle Paris souhaiterait également intégrer Mayotte malgré les revendications territoriales des Comores, Pauline Le Troquier.
L'enjeu est de taille pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a une occasion unique de plaider pour l'intégration de Mayotte au sein de la COI auprès des principaux concernés, à commencer par Azali Assoumani. Le président comorien qui revendique ce territoire lui a jusqu'ici toujours opposé un refus. Pour Paris, Mayotte en tant qu'île française doit bénéficier, au même titre que la Réunion, des programmes et des fonds de la COI. Paris défend donc une question d'équité et recherche une victoire politique au sein de l'organisation. Il s'agit de consolider la place de la France dans la région via le canal du Mozambique. Madagascar, le pays hôte de l'événement, a de son côté l'occasion d'affirmer son potentiel en termes de sécurité alimentaire. La grande île rassemble 98% des terres agricoles de tous les États membres de la COI. Elle pourrait être le grenier de l'océan Indien, à condition d'harmoniser les règles de libre circulation des biens entre les États membres. Celles-ci sont à ce jour loin d'être optimales dans une région largement dépendante des importations avec le reste du monde. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Et notons qu'un autre différend territorial a d'ailleurs été évoqué hier à l'occasion d'une rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue malgache Ange Radzoen. Paris et Antananarive annoncent en effet la réactivation d'une commission mixte sur les îles éparses, actuellement administrées par la France mais revendiquées par Madagascar depuis plus de 50 ans. Une réunion de cette commission mixte est annoncée le 30 juin à Paris. Un voyage en Afrique du Sud à présent, où est attendu aujourd'hui Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Le rendez-vous avait été pris pour le début du mois, dans un premier temps, avant d'être reporté. La guerre en Ukraine devrait évidemment être évoquée. Kiev voit en Pretoria une ligne directe avec le Kremlin. L'Afrique du Sud proche de la Russie, oui, mais qui cultive surtout sa position dite non alignée, Valentin Hugues.
Dans la même semaine, l'Afrique du Sud parle à la Russie et à l'Ukraine. Lundi, appel téléphonique entre Cyril Ramaphosa et Vladimir Poutine. Ce jeudi, le président ukrainien est attendu à Pretoria. Et si l'Afrique du Sud n'a pas condamné l'invasion russe en février 2022 et fait partie des BRICS avec la Russie, elle tente de se placer en médiateur, rare pays à pouvoir parler avec Kiev et avec Moscou. Aujourd'hui, l'objectif principal côté Afrique du Sud, c'est donc de continuer les efforts pour tenter de résoudre pacifiquement le conflit, explique la présidence. Pour l'Ukraine, c'est aussi une volonté de renforcer ses liens avec le pays et demander une plus grande implication, notamment pour le retour des milliers d'enfants ukrainiens déportés en Russie depuis le début de la guerre, sujet souvent au cœur des discussions entre les deux pays. Plus globalement, l'Ukraine tente aussi de se rapprocher davantage du continent. En 2023, Cyril Ramaphosa s'était rendu à Kiev avec plusieurs dirigeants africains. La rencontre entre Volodymyr Zelensky et Cyril Ramaphosa est prévue en fin de matinée au palais présidentiel de Pretoria. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et pendant ce temps, de son côté, le président kényan poursuit pour sa part son déplacement en Chine, visite d'État de 4 jours, William Ruto est arrivé avant-hier soir à Pékin pour discuter entre autres des opportunités économiques pour son pays à l'heure où la hache de la guerre commerciale est déterrée entre la Chine et les États-Unis.
Yaoundé 105.5 FM.
Il entretient le flou sur son éventuelle candidature au Cameroun. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis déjà 43 ans, briguera-t-il un nouveau mandat en octobre prochain ? À 92 ans, le chef de l'État ne clarifie toujours pas sa position, mais il laisse entrevoir ses ambitions à travers un post publié sur le réseau social X. Paul Biya dit vouloir continuer à tout mettre en œuvre pour perpétuer une profonde mutation sociale et faire naître une véritable nation camerounaise. Ce sont les mots du chef de l'État camerounais, des mots qui sont loin de passer inaperçus à 6 mois de la présidentielle maintenant, Polycarpe Samba.
Alors que les spéculations vont bon train sur ses intentions, cette sortie est venue rajouter à une constance observée depuis les tout récents discours de Paul Biya. Lors de son discours de vœux à la nation, le président camerounais disait déjà sa détermination à servir intacte. Quelques semaines plus tard, à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse, Paul Biya se projetait une nouvelle fois en disant notamment « Je continuerai de me tenir à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés ». Avec ses derniers tweets, Paul Biya lève un peu plus le doute sur ses intentions et semble dérouler un plan de communication par petits pas progressifs vers l'annonce de sa candidature. Une candidature que son parti, le RDPC, a déjà pour sa part entérinée, le parti ayant à de nombreuses reprises indiqué qu'il n'avait d'autre candidat que son président national qui n'est nul autre que Paul Biya. Et ce, en dépit de quelques impatiences exprimées en sourdine par certains cadres du parti, qui espèrent toujours que le président passera la main, en dépit aussi des protestations dans les rangs de l'opposition, à l'instar du MRC par la voix de Maurice Kamto, qui avait jugé cette possible candidature de criminel ou de certains évêques de l'Église catholique qui ont ces derniers mois pressé le président Paul Biya à renoncer à cette ambition. À un peu moins de 6 mois de l'élection présidentielle, cette question ne tardera pas à être tranchée. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Sur la scène politique ivoirienne, la justice a ordonné avant-hier sa radiation des listes électorales et l'opposant Tidjane Thiam devra faire face aujourd'hui à une autre affaire. Alors que le chef du PDCI est toujours à l'étranger et qu'il souhaite se présenter à la présidentielle d'octobre prochain, la justice ivoirienne se penchera aujourd'hui sur une plainte déposée par une militante de son parti. Elle conteste pour sa part l'élection de Tidjane Thiam à la tête de la formation Abdoulaziz Diallo.
Tidjane Thiam est visée depuis le mois dernier par une plainte de Valérie Yapo, militante et membre du bureau politique du PDCI-RDA. Elle conteste son élection à la tête du parti en décembre 2023. Son argument, au moment du congrès, Tidjane Thiam n'avait plus la nationalité ivoirienne. Elle s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité, le même qui a conduit à sa radiation de la liste électorale. Un Ivoirien majeur perd sa nationalité au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une nationalité étrangère ou en reconnaît une. Maître Alain Bokola, avocat de la plaignante, estime que la justice ne peut se contredire. La juridiction ne peut pas remettre en cause ce qu'elle-même vient de décider. Nous sommes confiants à 90%. La défense, elle, balaie ses arguments. Maître Rodrigue Dadjé estime que l'article 48 ne s'applique pas à Tidjane Thiam car il est né français du fait de sa filiation. Les avocats de Valérie Yapo avaient aussi demandé la suspension des organes du parti et la nomination d'un administrateur provisoire. Mais cette requête a été rejetée le 11 avril par la juge des référés qui s'est déclarée incompétente. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Le casse-tête de la gestion des déchets dans des agglomérations de plus en plus denses au Congo-Brazzaville. C'est une société turque qui s'en chargera désormais dans les deux principales villes du pays, à savoir Brazzaville bien sûr et Pointe-Noire également. Un accord a en effet été annoncé hier pour un contrat de 5 ans, Loïcia Martial.
Au terme de la signature de cet accord, le responsable de la société turque Ersol Nekmetin a indiqué que pendant 5 ans, le travail de son entreprise va consister à ramasser les ordures dans les deux agglomérations. Le service va démarrer dans 2 semaines dans la ville de Brazzaville et dans 1 mois à Pointe-Noire. Juste Désiré Mundele, ministre de l'aménagement de la ville, a donné plus de détails.
Aujourd'hui, dans le contrat actuel, nous sommes plutôt sur le tournage, à savoir que les estimations sur Brazzaville et Pointe-Noire sont de 1500 tonnes en ce qui concerne donc le tonnage, soit 1000 tonnes à Brazzaville et 500 tonnes à Pointe-Noire.
Il s'agit là d'un tonnage journalier. Manager général de l'ONG dénommé Protecting Environment Association, Serge Patrick Mvoma a émis un vœu quant à la bonne gestion des ordures.
On aimerait qu'ils mettent en place un système aussi, même des mécanismes de plainte, de démocratiser un peu cette gestion. De telle sorte que s'il y a des manquements, le citoyen lambda puisse justement émettre des plaintes par rapport à cela pour que ça puisse contribuer justement à l'amélioration de la gestion des déchets. Nous souhaitons que ça se passe pour le bien des citoyens congolais.
La société turque va prendre la relève de l'entreprise Averda dont le contrat est arrivé à son terme en septembre dernier. Loïcia Martial, Brazzaville. RFI.
Brazzaville, où c'est donc la société turque Al-Beirak qui va désormais gérer les déchets. Notre matinale continue sur la radio du monde. Vous retrouvez bien sûr Andréane Mélard.